Mots interdits. Une fin d'année, ma mère descendit s'asseoir à table, soir après soir, les yeux en eau, les paupières boursouflées et tuméfiées. Adélia emplissait son assiette avec dévotion, mais ma mère n'y touchait pas et filait en vitesse ce claquemuré dans sa chambre, d'où nous l'entendions geindre comme une blessée. Mon père restait à sa place. Mais il arborait une mine de circonstance et soupirait fortement entre deux cuillerées de soupe grasse. Après le repas, Adélia montait un thé de Simine Contra, reconnaissable à son odeur poivrée, et demeurait avec ma mère des temps et des temps. En l'attendant, je trépignais d'impatience. Sandrino et moi ne pouvions pas traverser la rue sans elle et chercher une place dans la cour des claviers. Dès les premiers jours du mois de décembre, nous nous groupions entre gens du quartier et têtes levées vers la voûte du ciel étoilé, nous braillions les cantiques du temps de l'Avent, parfois jusqu'à minuit. Même bonne maman Driscoll apportait son banc et s'asseyait dans une encoignure. Mes parents, qui ne se mêlaient jamais à ces assemblées, nous laissaient quand même prendre part. Les chanter Noël étaient l'unique concession qu'ils faisaient aux traditions populaires. Car si le rythme des cantiques était aussi endiablé que celui des biguines ou des mazurkas créoles, nous tapions avec emportement sur des bassines ou des fonds de casserole, les paroles étaient fort correctes. En bon français, en français français. Je suis encore capable de chanter sans me tromper « Michaud veillait la nuit dans sa chaumière » qui reste mon cantique favori. Mais aussi « Voisin, d'où venait ce grand bruit ?» « Venez, divin Messie, venez, source de vie !» ou encore « Joseph, mon cher fidèle !» Pour moi, la cause de l'état de ma mère était un mystère. Elle n'était pas malade, puisque mon père n'avait pas appelé le docteur Mélas en consultation. Elle ne s'était fâchée ni disputée avec personne, un voisin, une collègue, un étranger à l'école du bouchage, dans la rue, dans un magasin ou cinéma. Qu'est-ce qui l'avait contrarié ? Sandrino finit par me chuchoter à l'oreille que le mari de ma sœur Emilia l'avait quitté. Ils allaient divorcer. Divorcer ? Je ne connaissais pas beaucoup ma sœur Emilia. Depuis des années, elle vivait à Paris et je ne la rencontrais qu'à l'occasion de nos séjours en France. Plus de 20 ans nous séparaient. Nous n'avions pas grand-chose à échanger. Mon père, qui manifestait rarement quelques sentiments, fondait, dès qu'il évoquait sa fille première-née, la préférée de son cœur. Il citait ses traits d'esprit, il vantait son intelligence, son charme, la douceur de son caractère, et tous ses compliments paraissaient autant de flèches décochées contre la pauvre Thérèse, que la famille s'accordait à trouver bougonne, un laidron. Ma mère affirmait, en exhibant les photographies de son album, qu'Emilia était son portrait craché. Celle-ci avait épousé Joris Tertullien, le fils d'un notable fort connu et fort riche de Marie-Galante. Leur photo trônait sur le piano. Ils s'étaient mariés à Paris, deux étudiants anonymes, pour éviter sans doute les falbalas familiaux. Je savais qu'ils avaient perdu un enfant. Je ne m'intéressais guère à eux. Mes parents étaient extrêmement honorés de cette alliance avec les Tertulliens et la rappelaient au moindre prétexte. À leurs yeux, l'union d'Emilia et de Joris pouvait se comparer à celle des héritiers de deux dynasties dont les arbres généalogiques s'égalent. Plus secrètement, pour ma mère, j'imagine qu'elle symbolisait une revanche sur une île que sa mère avait quittée dans la gêne et la pauvreté. Peu de temps après le mariage d'Emilia et de Joris, un 15 août, jour de la fête patronale de Grandbourg, Thérèse, Sandrino et moi avions été expédiés auprès des Tertulliens en témoignage des nouvelles relations familiales. C'était mon premier voyage à Marie-Galante, ma désirada à moi. Le bras de mer était démonté. Le Delgrès qui assurait la liaison avec la pointe était bondé. Il montait jusqu'à la tête des lames, puis descendait brutalement jusqu'au fin fond des creux, plusieurs mètres plus bas. Les passagers vomissaient dans tous les coins du bateau. Les plus avisés avaient fait provision de sacs en papier qu'ils allaient en trébuchant lancer par-dessus le bastingage. Souvent, ils manquaient leur but et le contenu des sacs s'écrasait sur le pont. foule, le mouvement, la puanteur. Je me serais évanouie si Thérèse ne m'avait constamment fourré des rondelles de citron vert dans la bouche. Après ces 3 heures et demie d'agonie, l'île était sortie de l'eau. Des falaises blanches, parsemées de cases agrippées comme des cabris dans les positions les plus surprenantes, avaient surgi au-dessus des vagues. La mer s'était calmée comme par enchantement et le Delgrès était venu s'amarrer en douceur le long de l'appontement. Monsieur et Madame Tertullien nous surprirent. Tout le contraire de nos parents. Simples, souriants, affables. L'épouse, traînant ses sandales, était coiffée d'un chapeau de paille retenu par des brides nouées sous le cou. L'époux, gigantesque mais débonnaire, gagna aussitôt mon affection quand il me souleva de terre en me baptisant la perle de l'écrin. Malgré leur abord sans manière, ils habitaient la plus belle maison de Grandbourg, sur la place de l'église, et chaque matin, une file s'allongeait devant leur porte. Les suppliants venaient commander les faveurs de Monsieur Tertullien. Cette semaine passée à Marie-Galante fut un enchantement. Les Tertulliens, qui n'avaient eu qu'un fils unique, me gâtèrent plus qu'il n'est permis. Chaque matin, Madame Tertullien me demandait gravement ce que je désirais manger, comme à une princesse de conte de fées. Monsieur Tertullien m'achetait une poupée qui ouvrait et fermait les yeux. Je n'avais jamais imaginé pareille liberté, et quand je revis ma mère attifée en grande pompe sur le quai de la Pointe, je pleurais à chaudes larmes comme une évadée qui retrouve sa cellule. Trop fine pour s'y tromper, elle commenta avec mélancolie l'ingratitude de cœur des enfants. Depuis, les Tertulliens nous adressaient fréquemment par des compatriotes marie-galantais des paniers pleins de racines, de pois d'Angole ou de pois savon et des bouteilles de rhum agricole à 55 degrés qui parfumaient les gâteaux d'Adélia. Divorcée ! À mes oreilles, le mot avait une résonance obscène. Il voulait dire qu'un homme et une femme qui s'étaient embrassés sur la bouche, qui avaient dormi collés serrés sous la même moustiquaire, s'en allaient chacun de son côté et se comportaient à la manière de 2 personnes étrangères. Malgré les recommandations expresses de Sandrino, je ne pus garder une pareille information pour moi et je la communiquai à Yvelise. Yvelise apporta des précisions. D'après elle, si les 2 personnes avaient fait des enfants, on les partageait comme les poules d'une basse-cour. Les filles restaient avec leur mère, les garçons partaient avec leur père. Je m'indignais contre ce jugement de Salomon. J'objectais. Et si un garçon préférait rester avec sa mère, une fille partir avec son père? Et si un frère et une sœur ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre? Yvelise n'en démordit pas. Elle était au courant. Sa mère menaçait souvent de divorcer d'avec son père. Quelques jours plus tard, ma mère revint de l'école hors d'elle-même. Nous l'entendîmes rager longuement dans sa chambre. Elle avait de bonnes raisons de le faire. À l'heure de la récréation, des collègues, ayant appris le malheur de sa fille, lui avaient exprimé leur plus profonde sympathie. Elle l'avait pris de très haut et les avait rabroués vertement. De quel malheur parlait-elle? Du prochain divorce de sa fille? Allons donc, Joris Tertullien, en quittant Emilia, avait une fois de plus donné la preuve de l'irresponsabilité des mâles antillais. Dès le lendemain, un flot de voisines déferla sur notre maison. Ma mère était à peine rentrée de l'école que les visiteuses frappaient à la porte. Finalement, elle tint salon, assise bien raide sur le canapé d'angle jusqu'au dîner. Les visiteuses comptaient surtout des mères qui redoutaient pour leurs enfants un sort semblable à celui d'Emilia ou qui le déploraient déjà. Mais on comptait également des vieilles filles, des laissées pour compte, des femmes trompées, des femmes battues, toute qualité d'aigrie et de révoltée disposée à cracher du venin sur les hommes. Ma mère ne vit pas dans cette affluence une marque de sympathie. Au contraire, d'après elle, ces femmes venaient les pieds dans la peine que lui causait la mauvaise chance de sa fille. Sans repaître, sans réjouir. Aussi, ses visites la plongeaient soir après soir dans une colère mêlée d'amertume. Quand le flot des visiteuses commença de se tarir et que ma mère eut la tête à autre chose qu'à tenir dignement son rôle, une question se posa. D'où venait la fuite? qui avait laissé filtrer une information que mes parents avaient la ferme intention de garder secrète pour pas mal de temps encore. Mes larmes m'accusèrent. J'avouai piteusement que je m'étais confiée à mon inséparable Yvelise. Tout le monde comprit qu'Yvelise avait rapporté cette nouvelle à Lise, qu'il avait jugée trop croustillante pour la consommer en égoïste et l'avait partagée avec ses collègues de Dubouchage. De là, elle avait essaimé à travers toute la pointe. Je dois à la vérité de dire que ni mon père ni ma mère ne levèrent la main sur moi. Je ne fus ni punie ni brutalisée. Pourtant, je me trouvais plus honteuse et mortifiée que si mon père avait défait son cuir et m'avait administré une de ces raclées qu'il réservait à Sandrino. Mes parents me répétèrent la chanson déjà maintes fois entendue. Nous étions assiégés de tous côtés. Divorce, détresse, maladie, déficit financier, échec scolaire. Si, par impossible, ces drames survenaient, rien n'en devait transpirer, parce qu'alors, comme je venais d'en être témoin, nos ennemis, toujours aux aguets, tiraient avantage de notre malheur. Le leitmotiv revint. Comment est-ce qu'une petite fille aussi douée que moi ne comprenait pas cela? Pourquoi est-ce que j'y mettais tant de mauvaise volonté? Je n'entendis jamais prononcer une seule parole de compassion pour Emilia. Je ne sus jamais ce qui avait causé le désolant épilogue de son union avec Joris. À la vérité, personne ne s'en préoccupait. Emilia était coupable. L'échec de son mariage avec l'héritier des Tertulliens privait mes parents d'un lustre de plus. Il ouvrait une brèche dans l'orgueilleuse muraille dont notre famille entendait s'entourer. Pour cette raison, personne ne pouvait la plaindre.